Images et symboles à fleur de peau, Ancré te raconte le tatouage au travers des récits culturels et personnels. Entre passé et présent, découvre l'histoire et la culture du tatouage à travers le globe.
Bonjour à tous pour ce deuxième épisode de l'émission Ancré. Aujourd'hui, je l'espère, vous sentirez un peu moins le stress dans ma voix. Car si je peux être tout à fait transparente avec vous, lors de ma première émission du mois dernier, mon cher ami Nico, ici à La Technique, que vous n'avez encore jamais entendu...
Bonjour, bonjour.
S'est octroyé le luxe de débouler 3 minutes avant le direct et cela me rajouta une bien bonne dose de stress. Mais revenons à nos moutons. Ce coup-là, de bien meilleures conditions me permettent de vous détailler le programme du jour. Cet épisode sera donc découpé en 3 rubriques. La première partie, tatouage dans le paysage, s'articulera autour de la culture maya et aztèque. Deux civilisations qui ont façonné une grande partie de l'héritage culturel du Mexique. Tant par son architecture, son art, que ses célébrations et ses croyances, mais aussi par le tatouage qui est ancré dans le patrimoine culturel depuis des décennies, puisque ces peuples indigènes l'utilisaient déjà comme forme d'expression culturelle. Dans la deuxième partie d'émission, avec l'interview à fleur de peau, nous recevons une invitée. Elle nous partagera une partie de ses récits et expériences artistiques à travers certains de ses tatouages inscrits sur sa peau au fil de ses rencontres et aventures mexicaines. Et pour clôturer cet épisode avec le corps comme toile, j'ai aussi pris ma plume pour vous dévoiler et établir un lien personnel entre le Mexique, la thématique du jour et l'un de mes tatouages.
Tatouage dans le paysage.
En ce mois de novembre, où le cycle de la nature balaye les feuilles des arbres qui crispent sous nos pieds, l'automne laisse place à l'hiver. La lumière se veut plus discrète et la nuit, elle, gagne du terrain au quotidien. Et par cette alternance de saisons, après qu'une multitude de fantômes soient ressortis des placards, une célébration particulière avait lieu le 2 novembre dernier, la fête des morts. Si en Occident, cette célébration est relativement discrète, c'est loin d'être un jour anodin au Mexique. Car depuis plus de 3000 ans, c'est un véritable culte qui est pratiqué et célébré dans tout le pays, inscrit au patrimoine culturel immatériel par l'UNESCO en 2008 et mondialement connu, El Día de los Muertos. Le résultat du mélange, de la fusion entre une culture précolombienne ancestrale et celle de la culture espagnole moderne avec ses fêtes catholiques, introduite par les Européens et la colonisation avec l'arrivée de Christophe Colomb. Et quand je parle de civilisation ancestrale, il s'agit des Aztèques et des Mayas, qui avaient une vision cyclique de l'univers. Ils considéraient la mort comme une partie intégrante et omniprésente de la vie. Ils avaient également bon nombre de divinités qu'ils honoraient à travers différents rituels, toujours en l'honneur d'un dieu particulier. Les tatouages étaient d'ailleurs utilisés comme signes distinctifs dans les différentes tribus. Ils affichaient leur rang de guerriers, leurs exploits aussi. Les Mayas, eux, s'ancraient en signes de courage, de paix, d'unité, d'équilibre. Et ils y voyaient une manière de représenter le cycle de la vie. Les Aztèques avaient quant à eux une conception très particulière. Ils utilisaient la technique du dégradé pour obtenir la texture de la pierre au moyen de bracelets, notamment en gravant des serpents à plumes, comme le Quetzalcoatl autour de leur poignet. C'est l'une des caractéristiques les plus importantes des tatouages de cette culture. Petit freestyle à l'antenne qui n'a pas trop marché. Ces deux civilisations procédaient à des rituels très particuliers à la mort d'une personne. Il n'y avait pas de cimetière à l'époque et on enterrait les défunts dans des trous creusés dans leur maison. On plaçait alors avec les corps différents éléments, de l'eau, de la nourriture, des bijoux, et un animal particulier, une race de chiens nus endémique du Mexique dont je suis absolument incapable de prononcer le nom. Bref, bon nombre d'éléments que l'on retrouvera dans les célébrations d'El Día de los Muertos aujourd'hui. Mais pas celle de ce chien-là, évidemment. Et dans ce royaume des morts a aussi évolué une iconographie qui s'est répandue à l'international, que l'on a également fini par se dessiner, se graffer sur la peau, avec ces têtes de mort mexicaines appelées la Calavera, la Catrina ou la Santa Muerte. une tête de mort mexicaine dessinée à la base par José Guadalupe Posada, un graveur, caricaturiste et illustrateur mexicain, qui parut pour la première fois en 1889 dans une revue, La Patria Ilustrada. On retrouve ensuite la figure chez de nombreux artistes, dont le peintre mexicain Diego Rivera, le compagnon de Frida Kahlo. C'est d'ailleurs ce fameux Diego Rivera qui l'a rebaptisé la Katrina, le nom sous lequel on la connaît de nos jours. Écoutez Over de Hour Sound Plus et Tour de Manège. J'avais pas très très bien répété mon texte, donc il y a eu des petits bidouilles, voilà, comme ça c'est le direct, c'est un peu vivant. Et on passe maintenant à la partie 2 de l'émission.
L'interview à fleur de peau.
Et pour cet épisode, je reçois Veneno, jeune artiste graffeuse muraliste qui a vécu de l'art de la gravure pendant 3 ans à Oaxaca, au Mexique. Salut Veneno, comment vas-tu ?
Salut, ça va très bien, merci.
Tu vas nous parler aujourd'hui de ton expérience au Mexique. Qu'est-ce qui t'a amené là-bas la première fois ?
Alors moi, la première fois, c'était en 2016, il me semble, et c'est une association parisienne qui s'appelle Chapouline qui m'a invité à les rejoindre lors d'une mission qu'ils faisaient dans un centre social à Oaxaca de Juárez. Et donc, ils m'ont invité pour réaliser un atelier graffiti, pour apprendre le graphe à 3 jeunes de 20 ans. Voilà, un atelier qui durait 1 semaine. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça se passait pendant la fête des morts. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai découvert la culture mexicaine par le biais de la fête des morts. Et j'avoue que j'en suis complètement tombée amoureuse à ce moment-là. Voilà.
Tombée amoureuse pour y revenir, j'imagine, plus tard. Est-ce que tu as décidé d'y retourner ?
Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai, la première fois... comme je fais à chaque fois que je voyage, j'ai contacté des graffeurs, notamment un en particulier qui s'appelle Yeska, avec qui je suis devenue très amie. On a fait une connexion peinture, on a fait une grosse peinture sur leur atelier. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que un an après, j'y suis retournée pour refaire la fête avec eux, pendant la fête des morts, une autre fois. Et à ce moment-là, ils m'ont dit « Mais pourquoi tu ne viens pas t'installer ici ? En fait, nous, on a des ateliers auxquels tu pourrais participer. Enfin, tu pourrais graver dans nos ateliers, tu pourrais exposer dans nos galeries. » Donc j'avoue que moi, je vivais à ce moment-là en Belgique depuis 6 mois, où il faisait gris tous les jours, il pleuvait tous les jours. Même si j'étais avec mon crew et que j'étais très heureuse d'y être, j'avoue que ça a fait la différence. Et du coup, j'ai pris mon sac à dos et je suis partie habiter à Oaxaca pour vivre de la gravure, du coup.
Pour vivre de la gravure. Et c'est quoi les projets que tu as réalisés là-bas ?
Alors, j'ai réalisé plusieurs projets, mais il y en a un dont je vais vous parler aujourd'hui, du coup, en particulier, qui s'appelle le Proyecto Vandalo, puisque je l'ai réalisé dans la prison pour hommes de Oaxaca. Alors, j'ai la petite histoire, c'est que j'ai un ami qui était incarcéré à tort, un ami graveur assez connu à Oaxaca. En fait, le seul moyen qu'on a trouvé avec mon ami Yeska pour le voir, puisque au Mexique, c'est comme aux États-Unis, on n'a pas le droit de rendre visite si on est des amis, c'est que la famille, elle est très proche. Donc ça faisait 1 an et demi qu'il était incarcéré, qu'il n'avait pas vu d'amis. Et donc, on a décidé de trouver un petit subterfuge. On a été voir le directeur de la prison. Yeska lui a présenté le projet en lui disant « Il y a une artiste internationale en ce moment à Oaxaca qui aimerait peindre pour Dia de Muertos dans la prison. » Et donc, je me suis retrouvée face au directeur, à aligner mes 3 mots en espagnol que je connaissais à l'époque pour expliquer mon projet. Et il a accepté. Et donc, 3 jours après, on s'est retrouvés dans la prison avec Yeska à faire la surprise à notre ami, qui a halluciné, et à peindre du coup pendant 1 journée pour Dia de Muertos. Donc voilà, ça a été ma première entrée dans la prison. Et à cette occasion, du coup, j'y suis retournée pour chiller avec mon ami. Et je me suis liée d'amitié avec du coup des détenus. Qui participait déjà à un atelier gravure que mon ami avait monté.
Yeska.
L'ami qui était incarcéré, je ne vais pas citer son nom, mais
okay.
Voilà. Et donc lui, il avait monté un atelier de gravure dans la prison déjà, et à force d'y venir, en fait, moi, je mentais un petit peu au directeur, je disais que je donnais des cours de gravure, mais en fait, c'était juste pour chiller avec mon ami. Et au final, je me suis dit, c'est trop bête, parce que j'ai la possibilité de faire des allers-retours dans la prison. Il faut que j'en fasse quelque chose, donc j'ai proposé aux détenus de monter un projet en lien avec le graffiti et la gravure, puisque le graffiti, c'est ma passion. Et donc, ils ont tout de suite accepté. On était 17, ils étaient 17 détenus. Et donc, je leur ai proposé le projet Vandalo. Donc, à cette occasion aussi, je me suis rendu compte de tout le travail qui était mis en place dans la prison par les artistes qui intervenaient. Et notamment, à l'époque, il y avait Dr Lacra, qui est un artiste warakenien, qui donnait des cours de tatouage aux détenus. Donc, c'était assez nouveau pour moi de découvrir le tatouage sur des lanières en cuir, sur des chaussures, sur des portefeuilles, voilà, fait par des détenus. Et donc, c'est aussi à ce moment-là qu'un des détenus m'a fait essayer sa machine à tatouer, en fait, qui était assez hallucinante, puisqu'elle était réalisée avec une cuillère, avec un briquet, un petit moteur et une aiguille et tout ça ficelé avec... Enfin, voilà, je l'ai sous les yeux parce que je voulais ramener pour vous la montrer. C'est fait de briques et de broc. Et donc, j'ai demandé au détenu, mais... t'arrives à faire quoi avec ça ? Et il y a un détenu qui était à côté de lui qui a soulevé son t-shirt et qui m'a montré une pièce de tatouage, mais vraiment ultra bien réalisée, ultra précise, et j'ai halluciné, en fait. Et du coup, voilà, j'ai pu tester la première fois le tatouage en prison, dans une prison pour hommes au Mexique, ce qui n'est pas banal.
Avec cette machine ?
Avec cette machine, ouais. Machine qu'il m'a offerte par la suite. Donc, je l'ai actuellement.
Le souvenir.
Voilà. Donc voilà, ça c'était ma première approche avec le projet Vandalo et du coup première rencontre avec des tatoueurs mexicains en fait.
Mexicains et warakeniens.
Et warakeniens.
Et avec ces personnes, tu as décidé de réaliser un tatouage comme ils en faisaient ou...
Alors j'ai pas voulu en faire dans la prison,
ouais.
Parce que c'est très compliqué d'en réaliser dans la prison, vraiment trouver un endroit où il n'y a pas des gardiens, qu'il y ait quelqu'un qui fasse le guet. Enfin voilà, c'est toute une organisation. Si eux, ils se font prendre, en fait, ils ont du mitard. Et c'est la salle de castigo, ils appellent ça, de punition. Et donc voilà, c'est un truc qui est très risqué. Donc je ne voulais pas leur faire risquer ça, même si eux, ils le font entre eux. Mais en tout cas, j'ai attendu du coup, parce qu'il y a un des détenus avec qui... qui avait participé à mon projet Vandalo, qui est sorti entre-temps, et donc avec qui j'ai gardé contact. Et j'ai été le voir lors d'une convention où il tatouait, en fait, puisqu'il en a fait son métier, celui qui m'avait offert la machine, ouais. Notamment. Et c'était le jour de mon anniversaire, et donc pour me remercier d'avoir monté ce projet dans la prison, il m'a offert un tatouage, qui est donc celui que je porte sur le poignet. Voilà.
Et... qu'est-ce qu'il représente, ce tatouage ?
Alors, ce tatouage, il représente mon blaze. Donc, il y a écrit Veneno avec ma signature. Je l'ai fait sur le poignet parce qu'en fait, la signification de Veneno, à la base, j'ai choisi ce blaze pour... c'était un peu une image pour montrer comme le graffiti qui parcourt les rues, le venin, en fait, qui parcourt les veines. Donc voilà, là j'ai le Veneno dans les veines. Voilà, c'était une image que j'avais envie de donner et d'avoir à vie sur moi. Voilà. Et il représente beaucoup parce que du coup, il est fait par un des détenus qui est devenu un ami entre-temps.
Oui, et qui a été réalisé... Donc c'est pas celui-là qui a été réalisé avec... en fait, t'as pas de tatouage qui a été réalisé avec cette machine.
Non, j'ai pas de tatouage réalisé avec cette machine de la mort. J'avoue que je m'y suis pas risquée. Mais j'aurais pu, mais non, j'avais pas... Ça s'est pas présenté, en tout cas.
Ouais.
Ouais.
Et donc t'as ce tatouage, et t'en as un autre.
J'en ai un autre, du coup, à mon retour en France. Enfin, c'était un retour pendant que j'y habitais, puisque je sortais du territoire tous les 6 mois, parce que j'étais un peu en mode touriste illégalement, donc voilà.
Je vois.
Bref, et donc un de mes retours en France, j'ai demandé à un ami de me tatouer le mot Vandalo, voilà, sur l'épaule droite, qui représente du coup le projet que j'ai monté avec eux dans la prison.
Le nom du projet.
Le nom du projet, voilà. Qui peut se retrouver d'ailleurs sur Instagram, si vous voulez aussi regarder un petit peu le travail qu'on a réalisé. Ça s'appelle Projecto Vandalo.
Et donc ce projet, c'était de la gravure sur bois ?
Gravure sur bois, ouais. Alors, pour la petite histoire, du coup, la première fois que je suis rentrée dans la prison, en fait, il y a un des détenus qui m'a offert une spray en bois en volume.
Mmh. Qui c'est quoi, une spray?
Une bombe de peinture.
Ah oui, pardon.
Ouais. Avec marqué Veneno dessus. Et du coup, il était ébéniste dans la prison. Mmh. Et donc, je suis repartie avec cet objet-là en France. Et quand je suis revenue, je me suis dit, c'est trop bête, il faut que je fasse quelque chose de ça, parce que je trouve que l'objet est très, très beau. Et donc, quand je suis revenue pour monter le projet, j'ai demandé à ce même détenu de me faire 17 bombes de peinture en bois qu'on allait graver par la suite, imprimé comme un rouleau à pâtisserie et lui sculpté après pour que ça se transforme en bombe de peinture. Et je lui ai demandé de faire aussi 17 plaques de MDF en forme de spray de bombe de peinture qu'on a gravé, imprimé, et donc ça faisait et des sculptures et des impressions. Et en tout, on a sorti 80 œuvres qu'on a exposées dans la prison pour les familles des détenus, que j'ai sorti de la prison pour l'exposer dans la galerie Zapata. Et aussi à Mexico. Donc ouais. Voilà.
Elles ont été bien vues.
Ouais.
Et aujourd'hui, elles ont été récupérées par les personnes qui les ont faites.
Eux, je leur ai imprimé. Enfin, on a imprimé du coup des œuvres pour eux. Donc ça, ils les ont. Et puis elles sont en vente dans l'Espacio Zapata, toujours à Oaxaca de Juárez. Voilà. Et ce projet, du coup, il a vu le jour grâce à un crowdfunding que j'ai créé pour récolter l'argent pour pouvoir acheter le matériel. Donc voilà, ça a vu le jour comme ça.
Waouh, génial. J'aurais bien aimé que tu en ramènes une aujourd'hui.
J'aurais pu. J'ai tout laissé là-bas.
Attends. Oui, je comprends. Et pour illustrer tout le récit donc, que tu viens de nous partager, je t'ai demandé de choisir le titre d'une musique. Mm-hmm. Est-ce que tu peux me donner son titre avant qu'on l'écoute ?
Ouais, ça s'appelle Yerba Mala de Vic aussi, donc un Mexicain. Et c'est une musique que j'écoutais beaucoup quand j'étais dans cette période-là, en fait. Donc, je voulais vous la partager.
On l'écoute maintenant, merci.
Merci.
No muere, que cuenta los que ya se han ido.
Hierba mala cogió sus metales saliendo en su Lexus pa' las patronales a ver si veía los tipos que habían robado en su punto. Lo buscó por las grandes ciudades y cuando se acercaban las navidades los pudo mangar caminando en la calle a toditos juntos. Y de lejos se oyeron tiros saliendo de la 9 y la 30-30. Hierba mala pudo lograr que la muerte les cayera como tormenta. Y un niñito que lo vio todo corrió para esconderse en una tienda. Y hierba mala se fue a cubrir en la quinta enmienda. El niñito creció poco a poco y se fue involucrando en ese mundo loco donde las esquinas apestan a plomo y los cuerpos a sangre. Metieron dentro de la cabeza los que trabajaban encima de la mesa que para montarse siempre se empieza conociendo al grande. Y aquel niñito que ya era un hombre no paró hasta encontrarse una buena pala. Y eso fue lo mejor que hizo para poder reencontrarse con hierba mala. Hierba mala le dijo pasa y siéntate conmigo aquí en mi sala. Y le entregó una 45 con muchas balas. Con el arma que el jovencito a hierba mala la confrontó. Y gritando le preguntó que si se acordaba de la masacre que cuando niño en su propio barrio organizó. Y que su padre entre las víctimas se encontraba. Y apuntando le disparó. Y hierba mala al piso cayó, su pecado no confesó, y su alma no se salvó. ¿Cómo podría imaginar que el jovencito le iba a tirar el mismo día que le daría la confianza para trabajar? El muchacho de allí salió, y con el punto se quedó, todo el mundo lo respetó, al saber lo que sucedió. Bandera vino a plantar y quién lo iba a criticar si los que matan son los que viven y el que está muerto se va a enterrar.
Hierba mala ya fue olvidado, igual que los que él mismo había eliminado. Y los planes bonitos que había soñado están bajo tierra. Y un sobrino que lo idolatraba, tremenda venganza ya tiene planeada, viviendo en el cuento que nunca se acaba. Y empieza otra guerra.
Empieza otra guerra. Oye, que se repite la misma cosa. Pues hierba mala si muere.
Merci à toi, Veneno, d'être venu ici aujourd'hui et de nous avoir partagé l'histoire du de ton tatouage et de ses expériences au Mexique. Je vais te laisser encore la parole si tu veux nous dire des choses avant de continuer la dernière partie de l'émission.
Ouais, bah, je voulais vous remercier pour l'invitation déjà, c'est très cool.
Merci à toi d'être venu.
D'avoir
vraiment
pu partager ça avec vous. Et puis aussi, si vous voulez découvrir mon travail, les 6, 7 et 8 décembre, je serai en pop-up store de Noël à la Monstrueuse Galerie qui est au 13 rue de Strasbourg. Voilà, pendant 3 jours, vous pourrez découvrir mes gravures, notamment réalisées au Mexique. Et un petit peu tout mon univers.
Génial, moi je vais directement aller voir ça. Merci encore. On passe maintenant à la troisième partie de l'émission qui sera la dernière.
Des récits, non pas gravés dans la roche, mais dans la chair.
Depuis bien des années, la destination du Mexique bouillonnait en moi, sans jamais vraiment avoir su m'expliquer pourquoi. Et puis finalement, c'est en mars dernier, à cet exact moment de mon existence, que je pus m'y rendre. Au milieu des guerres et des ravages, je me suis offert le luxe de fuir. Dans un monde d'appartenance, j'avais besoin de me lever dans l'éphémère magie de la vie, déconnecter du quotidien, me combler de frénésie et de curiosité, m'enivrer dans ce qui ne m'appartenait pas, me réfugier dans ce qui ne serait jamais mien. Par le rythme de l'océan Pacifique s'engouffrant sous mes pieds, l'enivante mélodie des vagues avait comme seul point de repère le battement de son propre cœur. La danse des pélicans frôlant l'écume, la lune se couchant tandis que la lumière du soleil en dissipait timidement ses rayons. Dans toutes les palettes de couleurs et de motifs que la vie propose, dans le pouvoir des fleurs, de la beauté de la nature, dans les liens exceptionnels que l'on tisse entre humains, dans ce que l'éphémère a de sublime. À travers cette foisonnance, cette foisonnance de vie, de couleurs, de musique, de street art, colibri ou omniprésence de la mort, je me sentis vibrer à nouveau, renaître de mes cendres, loin des miens, à la redécouverte de moi-même dans ce pays aux nombreuses croyances spirituelles et poétiques. Je voyais à Oaxaca partout cette omniprésence de linogravures, représentant des cœurs où poussaient des agaves. Et cela me renvoyait sans cesse à ce cœur d'artichaut, ce tatouage gravé dans ma peau. Le 11 novembre 2023, une lumière quitta notre monde visible. Cette émission est aussi un hommage à cette âme qui illumina la vie de tant de Nantais et qui piqua aussi mon cœur d'artichaut. Cette empreinte indélébile, si spécifique, gravée au fur et à mesure du récit de notre rencontre. Une partie de Kermit qui vivra toujours en moi, croquant la vie comme si demain ne viendrait pas. Merci à tous d'avoir écouté cette émission, que vous pourrez également retrouver en podcast, toujours à la même adresse, sur prune.net. On se retrouve le 15 décembre prochain pour une troisième émission de Ancré. Je vous quitte en rythme avec le titre d'une autre lumière partie trop tôt. DJ Mehdi avec sa musique Pocket Piano.